Est-ce que vous réalisez vraiment à quel point nous avons tous besoin les uns des autres?
L'isolement et la division au sein du corps de Christ, ce sont des tactiques de Satan pour faire tomber les croyants. Si nous ne veillons pas les uns sur les autres, si nous ne nous encourageons pas les uns les autres, et si nous sommes isolés ou divisés, nous allons tomber.
Vous écoutez Réveille nos cœurs. On va commencer aujourd'hui avec un petit quiz musical pour vous faire deviner la thématique de ce dont nous allons parler dans quelques instants. On va pour cela puiser dans le répertoire des chansons francophones.
Effectivement, c'est Laure qui nous a préparé trois extraits de chansons. Ben, on va voir qui trouve en premier, vous ou nous.
Alors c'est parti pour le premier extrait. Écoutez bien.
Souviens-toi, était-ce mai, novembre ici ou là, était-ce un lundi? Je ne me souviens que d'un mur immense, mais nous étions ensemble, ensemble, nous l'avons franchi.
Alors, qui a trouvé
la voix, le style? En plus, il reste la personnalité préférée des Français quand même. Hein,
ok, c'était facile. Jean-Jacques Goldman. Maintenant, celle-ci.
Gagné, jamais on se ressemble. On va traverser le temps, que même l'ennui se lasse. Et rien sur nous ne laisse une trace. On marche ensemble, ensemble.
C'est plus difficile là, non?
Une voix familière aussi, certainement pour vous.
Eh oui, c'était Chaim. Allez, on continue. Troisième extrait.
À celui qui veut construire sa maison tout seul, à celui qui pense que l'enfer, c'est les autres, à celui qui ne tend jamais la main par orgueil, à celui qui préfère dire le mien que le nôtre, à celui qui pense qu'on doit être seul pour être libre, qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi, je dis que j'ai besoin des autres pour bien vivre. J'affiche l'esprit d'équipe comme un emblème. Tout seul, je vais vite. Ensemble, on va loin.
Allez, on vous laisse quelques secondes de réflexion. Vous avez une idée?
Alors, vous n'avez peut-être pas trouvé le nom de l'artiste, mais je suis sûre que vous avez remarqué qu'il y a un mot qui revient à chaque fois et qui correspond à notre thème du jour.
Effectivement, le point commun de ces trois chansons, c'est le mot « ensemble ». Et si vous n'avez pas trouvé l'artiste qu'on vient d'entendre, c'était « Grand Corps Malade ». Toutes ces chansons qu'on vient d'entendre mettent en évidence la beauté et le besoin d'être ensemble dans les relations de couple, de la famille, des communautés. Alors si les artistes, qu'ils soient croyants ou non-croyants, voient la valeur ajoutée de faire des choses ensemble et non pas chacun pour soi ou de manière isolée, combien c'est d'autant plus vrai dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. On continue aujourd'hui la série intitulée « L'Église, à quoi ça sert ?» Dans ce troisième podcast, on va se concentrer sur le fait qu'en tant que corps de Christ, nous avons besoin les uns des autres.
Vous savez, il y a beaucoup de personnes chrétiennes qui disent « Ok, moi je crois en l'Église, l'Église avec un E majuscule, je sais qu'on en a besoin, que c'est le corps, la famille, l'édifice, l'épouse de Christ, je sais que c'est le plan de Dieu, je comprends tout ça. Mais je suis moins convaincue en ce qui concerne l'Église locale. » D'ailleurs, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les mots d'une femme qui nous a écrit, je lis, « J'ai vraiment du mal avec tout ce concept de l'Église locale. Je crois en Dieu, au paradis, à la Bible, mais je ne suis pas trop à l'aise avec cette idée d'Église. Est-ce qu'une personne ne peut pas tirer les mêmes bénéfices en étudiant et en adorant Dieu en privé, à la maison, sans devoir assister à des cultes, à des services religieux? Est-ce que ça fait vraiment une différence pour Dieu ?» La question de cette femme, en fait, c'est le titre de notre série « L'Église, à quoi ça sert ?» Est-ce qu'en plus de l'Église avec un grand « E », on a besoin de cette Église avec un petit « E », l'Église locale? En échangeant avec pas mal de croyants, je découvre que beaucoup de ceux qui se considèrent comme des chrétiens ne font pas partie d'une Église locale. Ils n'en voient pas l'intérêt. Ils sont parfois dégoûtés de l'Église ou désabusés. Peut-être qu'ils ont vécu de mauvaises expériences dans le passé. Ou alors, ce sont des gens qui n'ont peut-être jamais encore rejoint d'église locale et qui n'en ressentent pas le besoin. C'est un petit peu comme pour cette femme. Ils se disent « Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas simplement adorer Dieu tranquillement chez moi ? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller à l'église ? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller dans des lieux comme ça ? Est-ce que pour Dieu, ça fait une différence au final ?» Et puis, on voit aussi les personnes qui vont d'église en église, mais qui ne s'attachent pas vraiment à une communauté en particulier. Dans le Nouveau Testament, quand on trouve le mot « église », ça correspond presque chaque fois à un rassemblement de chrétiens sur une certaine zone géographique. Ce matin, je lisais la lettre aux Éphésiens, et écoutez comment ça commence. « À ceux qui appartiennent à Dieu et qui sont à Éphèse ». C'est le premier verset. Là, c'est l'église locale. Il n'y a pas la notion d'église universelle avec un « e » majuscule, mais on parle là de la communauté locale. Ce que je comprends, c'est que aller dans une église locale, aussi faillible et compliquée qu'elle puisse être parfois, ce n'est pas une option. Si vous êtes membre du corps de Christ, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Voilà ce que répondait le théologien britannique Charles Spurgeon à ceux qui disaient « Je suis chrétien, mais je n'ai pas besoin d'être membre d'une église ». À quoi sert une brique ? À construire une maison ? Il ne sert à rien que cette brique vous dise qu'elle est aussi utile toute seule par terre qu'elle le serait dans un mur de la maison. C'est une brique bonne à rien. Et il poursuit avec cette éloquence qui lui est propre, « Vous, les briques sans fondation, je crois que vous ne répondez pas à votre appel. Vous vivez en contradiction avec la vie que Christ voudrait que vous viviez et vous êtes en grande partie responsable du mal que vous causez. » Ce sont des paroles assez fortes. Hein. Ne pas aller à l'église, ça voudrait donc dire ne pas répondre à l'appel de Dieu ? Est-ce que ça veut dire que vous n'écoutez pas la parole de Dieu et que vous causez du tort ? Est-ce que c'est vraiment aussi sérieux que ça ? Eh bien, regardons ce qu'il est dit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12. J'aimerais qu'on puisse comprendre le sérieux de ce sujet et l'importance d'être rattaché à une église. On va prendre l'analogie au verset 12 et 13 qui décrit les croyants comme étant un corps. Le corps forme un tout, une unité, mais il a pourtant plusieurs organes, c'est ce que nous sommes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Il faut comprendre qu'à cette époque, c'était inconcevable que les Juifs, les Grecs, les esclaves et les hommes libres puissent adorer Dieu ensemble dans un même lieu. C'était inimaginable. C'était le grand mystère de Dieu pour eux que Dieu puisse unir ces groupes, ces différentes classes sociales en un seul et même corps. On continue au verset 14. « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. » Donc, ce n'est pas seulement Dieu et vous. Vous ne pouvez pas être un chrétien, une chrétienne isolée, tout en étant la personne que Dieu veut que vous soyez. Et puis la suite, versets 15 et 16. « Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps. Ne ferait-il pas partie du corps pour autant ? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps. Ne ferait-elle pas partie du corps pour autant ?» Imaginez une partie de votre corps qui dit « Parce que je ne suis pas le cœur, je ne suis pas membre de ce corps. » Mais c'est ridicule, c'est absurde. Le corps est une unité. Il y a plusieurs membres qui ont chacun leur place, leur fonction, leur apparence, leur rôle. Ils contribuent tous de manière différente au corps et tous sont nécessaires. De même, vous ne pouvez pas vous séparer du corps, de l'Église. Et on va pousser l'analogie, tout comme votre main ne peut pas juste dire « j'ai pas besoin d'appartenir à ce corps » et puis aller vivre sa vie, être une main qui se balade toute seule, vous ne pouvez pas non plus décider de vous séparer du corps. Sans le reste du corps, la main n'est plus utile. J'insiste, vous ne pouvez pas vous séparer du corps. Si vous êtes en Christ, vous êtes membre de son corps. C'est aussi simple que ça. Chaque membre est différent, mais chaque membre fait partie du même corps. Je continue au verset 17 de 1 Corinthiens 12. « Si tout le corps était un œil, vous imaginez un gros œil qui se balle, vous imaginez un gros œil qui se promène et qui pense être suffisant en lui-même. Si tout le corps était un œil, comment pourrait-on entendre? Et s'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? C'est évident, n'est-ce pas? L'oreille ne peut pas fonctionner toute seule, l'œil non plus, le corps a besoin de tous ses membres. Ça ne fonctionnerait pas si on était tous les mêmes. Pensez à ça quand vous êtes agacé par les particularités de certaines personnes dans l'église et que vous vous dites « Ah, s'ils n'étaient pas si bizarres ou si différents !» Parce qu'en fait, vous avez besoin que ces personnes soient différentes. Si tout le monde était comme vous ou comme moi, je ne vais même pas y penser, ce ne serait pas un corps. Je continue verset 18. « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. » C'est exactement ce que disent les Écritures. Dieu met les membres ensemble. C'est lui qui les place dans le corps, chacun d'entre eux, selon sa volonté. On lit dans les deux versets suivants, « Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ?» Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Donc si Dieu a positionné chaque membre dans le corps, chacun dans une église locale différente, comme il l'a voulu, comme il l'a conduit, laissez-moi vous dire qu'il ne suffit pas de tolérer ces membres du corps de Christ. On devrait remercier Dieu pour chacun d'entre eux. On doit apprendre à les aimer, apprendre à les valoriser, à les apprécier. Verset 21. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Est-ce que ce n'est pas un peu comme ça qu'on agit parfois? On pourrait bien se passer de cette personne-là. Elle n'apporte vraiment rien. Bien sûr, on ne va probablement jamais dire les choses comme ça, mais est-ce que ce n'est quand même pas quelque part ce qu'on pense? On se dit « Bon, cette personne-là, franchement... » Je le répète, aussi bizarre et imparfait et incomplet que nous soyons, nous avons besoin les uns des autres. Chaque membre du corps est essentiel. On ne peut se passer d'aucun d'entre eux. Si vous n'êtes pas là, ça fait une différence pour tous. Vous ne pouvez pas dire « ils n'ont pas besoin de moi ». Et eux, ils ne peuvent pas dire « nous n'avons pas besoin de toi ». Si vous n'êtes pas là, il y a un membre qui manque à l'appel. Si je perds une main, c'est tout mon corps qui va être impacté. Vous savez, on ne s'en rend pas compte jusqu'à ce qu'on perde ce membre. On a tendance à tout prendre pour acquis, mais est-ce qu'on n'est pas pareil au sein du corps de Christ? Ça ne manque pas jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il manque une fonction. On ne sait pas toujours quelle est la fonction d'un membre. Je ne sais pas à quoi servent certains membres du corps, ni comment ils fonctionnent et pourquoi j'en ai besoin. Je veux dire, il y a certains membres qu'on ne voit pas et dont on ne parle pas beaucoup. Je ne sais pas, moi, par exemple, le pancréas ou la rate. Il y en a certains parmi vous qui savent exactement à quoi ça sert, mais moi, je ne sais pas vraiment. Mais je sais que si Dieu les a mis, positionnés dans le corps, il y a une raison à ça. Si vous n'êtes pas là, ça fait une différence pour le corps. Même en ce qui concerne les membres les plus faibles, peut-être les moins talentueux ou les moins visibles, les Écritures disent que nous devons même leur porter un soin, une attention particulière. Alors, concernant l'Église, ce qu'il faut retenir, c'est premièrement que nous avons besoin du corps, et deuxièmement, que le corps a besoin de nous. On ne peut pas fonctionner seul sans le corps. Nous ne sommes pas complets sans le reste du corps. Nous avons besoin de ces dons particuliers que Dieu a donnés aux autres et que nous, nous ne possédons pas. Nous avons besoin de ces dons qui œuvrent ensemble dans nos vies si nous voulons être transformés à l'image de Christ. Nous avons besoin d'être spirituellement nourris, encouragés, redevables, d'avoir des conseils, d'avoir un vis-à-vis, une aide pratique et du réconfort. C'est ce que le reste des membres du corps peut nous offrir. Là, peut-être que vous allez me dire « Ah oui? Eh bien, c'est pas ce qu'ils font. » Et vous avez raison, on ne le fait pas comme on devrait le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on devrait renoncer, laisser tomber. Au contraire, ça veut dire que nous devons nous investir, prier, servir les autres et demander à Dieu de rendre le corps encore davantage comme il devrait être. Alors ne laissons pas tomber parce que ça ne marche pas parfaitement ou parce que ça ne fonctionne pas toujours comme ça devrait. Vous avez besoin du corps, j'en ai besoin. Nous avons besoin de nous tous, pour le dire autrement. Vous n'avez pas seulement besoin des autres, les autres ont aussi besoin de vous. Le reste du corps ne peut pas fonctionner ni être en bonne santé sans vous. Peut-être que vous vous dites « Mais quelle différence ça fait si je me retire ? Qu'est-ce que ça change si je ne vais pas à l'église régulièrement ? Qu'est-ce que ça change si j'y vais et puis que je repars juste après ? Qui est-ce qui s'en soucie ?» Et encore plus dans ces grandes églises où on se perd facilement dans la foule, n'est-ce pas ? Qui s'en rend compte ? En quoi c'est important ? Eh bien oui, c'est important. Si vous n'êtes pas intégré, le corps n'est pas complet. L'église ne peut pas être en bonne santé. Elle a besoin de vos dons spirituels. Elle a besoin des fonctions que Dieu a désignées pour vous dans l'église. Quelqu'un me disait récemment « Je suis triste de voir que la génération de nos parents se retire de l'église ». Et je crois effectivement que beaucoup de celles et ceux qui ont passé un certain âge se disent « La relève est arrivée, l'Église n'a plus besoin de nous ». Alors à celles et ceux qui sont dans ce cas, laissez-moi vous dire que l'Église a besoin de vous. On a besoin de votre sagesse, on a besoin de votre expérience, de votre exemple. Le reste du corps a besoin de vous et vous avez besoin du corps, quel que soit votre âge. Un soir d'hiver, l'évangéliste américain Dwight Moody a rendu visite à un homme important de Chicago. Et pendant leur conversation, le sujet de l'intégration et de l'implication dans l'Église a fait surface. Et cet homme a dit à Moody « Je pense qu'on peut être un bon chrétien avec ou sans l'Église ». L'histoire raconte que sans rien dire, Moody s'est dirigé vers la cheminée, il a mis à l'écart une bûche enflammée. Et puis les deux hommes se sont assis, ils ont regardé cette bûche de laquelle s'échappaient encore quelques flammes. Et puis, progressivement, elle s'est éteinte. Vous voyez, seul, on ne survit pas. Vous ne pouvez pas garder un cœur bouillant et une fervente passion pour Dieu en étant isolé des autres. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des forêts de séquoia en Californie ? J'ai eu la chance d'y aller pour la première fois il y a quelques années. C'est vraiment incroyable, cette forêt. Il paraît que ce sont les plus gros et les plus hauts arbres du monde. Il y en a certains qui mesurent jusqu'à 106 mètres de haut et qui ont jusqu'à 2500 ans. C'est énorme ! On se dit que forcément, ils doivent avoir un système racinaire incroyable, hein, peut-être profond de dizaines de mètres sous terre. Eh bien, pas du tout. Les séquoias ont un tout petit système racinaire. La plupart des racines ne font pas plus de 2 à 3 mètres sous terre, ce qui n'est vraiment pas grand-chose quand on pense qu'ils peuvent atteindre plus de 100 mètres de haut. On peut se demander comment ces arbres énormes font pour tenir autant d'années. Eh bien, ils ont un secret. Un secret qui se cache dans leurs racines. Parce que ces arbres grandissent ensemble, toutes leurs racines s'entrelacent. Elles sont liées les unes aux autres. Donc, les séquoias sont complètement entrelacées par leurs racines. Et quand les tempêtes arrivent et que le vent souffle avec la force qu'on lui connaît, les arbres restent debout. Mais ils ne tiennent pas tout seuls. Ils se soutiennent et se protègent les uns les autres. Et ça me fait penser à notre fonctionnement entre croyants. On ne tient pas debout tout seul. Si on est tout seul, on s'effondre lorsque les tempêtes arrivent et que le vent se lève. On a besoin des autres. On a besoin que nos racines soient entrelacées si on veut tenir ferme, grandir et vivre longtemps. Les premiers chapitres de la lettre aux Hébreux répondent à la question suivante. Comment un homme pécheur peut-il s'approcher et rester près de Dieu ? On trouve cette réponse dans les 9 ou 10 premiers chapitres de ce livre, mais au chapitre 10, l'auteur arrive à une conclusion. Il dit, verset 21, « Approchons-nous avec un cœur sincère », puis au verset 24 et 25, « Veillons les uns sur les autres ». Si nous voulons grandir dans notre relation avec Dieu, nous devons nous approcher de lui en veillant les uns sur les autres, dans le corps de Christ. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude. Mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et le jour dont il est question, là, c'est le jour du Seigneur, le jour du jugement, le dernier jour. Alors que nous voyons ce jour arriver, souvenons-nous de nous soutenir les uns les autres, afin de nous aider à tenir bon et à nous approcher ensemble de Dieu. L'isolement et la division au sein du corps de Christ. Ce sont des tactiques de Satan pour faire tomber les croyants. Si nous ne veillons pas les uns sur les autres, si nous ne nous encourageons pas les uns les autres, et si nous sommes isolés ou divisés, nous allons tomber. En lisant le Nouveau Testament, vous allez trouver de nombreuses instructions pour vous guider dans la manière de gérer les relations. C'est souvent ce fameux « les uns les autres » qui revient. Se saluer les uns les autres, se réconforter, se pardonner les uns les autres, s'édifier, être au service les uns des autres, porter les fardeaux les uns des autres, s'encourager les uns les autres, prendre du temps les uns avec les autres. On trouve tout cela dans le Nouveau Testament. Être bon, tendre et indulgent les uns avec les autres. Accueillir et se recevoir les uns les autres comme Christ nous a reçus. Prendre soin les uns des autres, être un soutien les uns pour les autres. Faire preuve d'hospitalité les uns envers les autres. Prier les uns pour les autres. Et il y en a beaucoup d'autres dans les Écritures de ces « les uns les autres ». Quand vous entendez cette liste, vous avez peut-être envie de faire partie d'un tel groupe où vraiment on vit les uns pour les autres. Je pense que si on échoue souvent dans nos églises sur ce plan-là, et c'est aussi ce qui fait que beaucoup abandonnent ou se retirent, c'est que on se dit « c'est pas vrai, en fait, ça ne marche pas ». Ce qu'on devrait plutôt faire, c'est de prendre les choses en main et de commencer à le faire nous-mêmes au lieu d'attendre que les autres le fassent vis-à-vis de nous et de critiquer les églises parce que les gens ne vivent pas l'église comme ils le devraient. Ce que nous voulons des autres, faisons-le déjà nous-mêmes. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'on fasse pour vous. Alors prions pour les autres. Faisons preuve d'hospitalité, prenons soin des autres, encourageons-les. Aidons-les à porter leur fardeau. Commençons déjà par le faire nous-mêmes. N'attendons pas que ça vienne des autres. Il y a tellement de chrétiens en marge de l'Église qui se sont séparés de l'Église et qui souffrent des conséquences du manque de ce type de communion les uns avec les autres quand nos racines sont, comme celles des séquoias, entrelacées. Il y a une histoire tragique qui a été rapportée dans un magazine canadien. Ça s'est passé à Winnipeg. Un employé municipal retraité, âgé de 53 ans, s'est couché un soir et il est mort dans son sommeil. Et quasiment 2 ans plus tard, un policier reçoit l'appel d'un proche inquiet. On peut se demander à quel point la relation était proche. En tout cas, quand cette personne est entrée dans l'appartement, elle a trouvé le corps de cet homme momifié. Tout était resté intact dans ce petit appartement. Il y avait encore de la nourriture dans le frigo. Bon, elle avait moisi, mais tout était là, intact. Et la page du calendrier était toujours la même, celle de 2 ans auparavant. La mort de cet homme était passée inaperçue pour différentes raisons. Mais voilà ce qui m'a frappée, c'est qu'il vivait reclus, éloigné des membres de sa famille. Il souffrait d'une maladie qui a fait que son corps ne s'est pas décomposé et donc que ça n'a pas dégagé d'odeur. Cet homme recevait automatiquement sa pension d'invalidité et, pareillement, les prélèvements par les services publics se faisaient au fur et à mesure. Personne n'a su qu'il y avait un problème. Personne n'a su que cet homme était mort. En lisant cette histoire, ça m'a fait penser à tellement de membres de l'Église. Des gens qui sont inscrits comme membres, mais qui disparaissent de la vie de l'Église. Et ça se termine par des situations dramatiques parfois. Personne ne s'en rend compte jusqu'à ce que ce soit trop tard. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas reliés, parce qu'ils ne sont pas connectés à la communauté. Ils sont isolés, parfois même reclus. Nous sommes confrontés à ce type de situation. Et dans certains cas, ces personnes n'ont peut-être pas disparu physiquement de l'assemblée. Elles sont là chaque dimanche, elles continuent de donner leur offrande avec un prélèvement automatique, les factures sont payées. Personne ne sait qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais à l'intérieur, ces gens sont morts ou en train de mourir. Leur mariage est en train de se détruire. Spirituellement, rien ne va. Ou spirituellement, ça ne va pas. Mais personne ne remarque rien. Pourquoi ? Parce que même si ces personnes sont là, elles sont totalement déconnectées de la communauté. Elles sont comme étrangères, isolées, recluses. Elles ont l'air vivantes, mais comme mortes intérieurement. Et c'est tragique si personne ne vient leur demander « Comment vas-tu ? » Vraiment, comment tu vas ? Quelle triste image pour certaines de nos églises aujourd'hui, n'est-ce pas ? Je pense à Apocalypse, chapitre 3, verset 1, où Jésus dit à l'église de Sardes « Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Vous savez quoi ? Quand vous êtes dans une communauté, que vous êtes relié, connecté par les racines de la famille de Dieu, vous n'allez pas chuter aussi facilement. La communauté va vous aider à tenir debout. Il y a quelqu'un qui va voir, quelqu'un qui saura. Mais vous devez contribuer à ça. Vous ne devez pas vivre de façon recluse, éloignée, que ce soit physiquement ou intérieurement. Vous ne pouvez pas non plus rejeter la faute sur les autres. Vous devez tout mettre en œuvre pour vous impliquer. L'auteur américain Larry Crabb a écrit ceci : « La communauté est importante, au même titre que l'oxygène est important. Tout comme nos poumons ont besoin d'air, nos âmes ont besoin de ce que peut donner la communauté. Nous sommes faits à l'image d'un Dieu trinitaire qui est lui-même trois personnes en relation profonde les unes avec les autres. Nous avons été conçus par ce Dieu trinitaire pour vivre en relation. Sans cela, nous mourrons. C'est aussi simple que ça. » Fin de citation. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de l'histoire des 9 mineurs qui ont été piégés pendant 3 jours dans une mine en Pennsylvanie. Ils se sont retrouvés à 73 mètres sous terre dans un puits de mine rempli d'eau. Et le reportage disait ceci : « Ils ont vite compris qu'ils allaient soit survivre ensemble, soit mourir ensemble. » L'eau à 12 degrés menaçait de les tuer lentement par hypothermie. Il a été rapporté que lorsque l'un d'entre eux avait froid, les 8 autres allaient l'entourer pour le réchauffer. Et lorsque c'était une autre personne, les 8 autres se mobilisaient à leur tour pour le réchauffer. Alors que tout le pays retenait son souffle devant les écrans, ces 9 personnes en danger de mort ont fait face ensemble à des conditions hostiles. En unissant leurs forces, ils s'en sont sortis. Mais quelle belle image de ce que devrait être le corps de Christ. Nous vivons dans un monde hostile, où nous sommes éprouvés. Il y a toutes sortes de forces qui nous assaillent pour fragiliser notre foi, pour éloigner notre cœur de Dieu. C'est pourquoi, comme les séquoias, comme les 9 mineurs dont je viens de parler, nous devons tenir ferme, souffrir, grandir, vivre, fonctionner, travailler, faire face ensemble. Nous avons besoin les uns des autres. Ce n'est pas une option, c'est une question de survie.
Ne pensez-vous pas que trop souvent on passe à côté de la valeur de l'Église, la famille de Dieu ? On a besoin de chacun de ses membres. Et ça vaut vraiment la peine de prendre le temps et de lire tous ces passages parlant de ce fameux « les uns les autres » dans la Bible. Est-ce que vous êtes peut-être à la recherche d'une Église en ce moment ? Alors, voici quelques indications pour vous aider.
Il est certainement déjà arrivé à plusieurs d'entre vous d'avoir eu à déménager et à choisir une nouvelle église. Moi-même, j'ai fait cette expérience et ça peut être un véritable challenge. Comment savoir à quelle église se rattacher ? Dans la plupart des pays, maintenant, on a la chance d'avoir le choix. Les croyants du Nouveau Testament, eux, ils n'avaient pas 10 000 options. Il y avait l'église à Éphèse ou l'église à Corinthe, par exemple, mais il n'y avait pas une multitude d'options comme aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on fait pour choisir ? Qu'est-ce qu'une église selon la Bible ? Vous savez, malheureusement, on aborde souvent cette question avec un côté consommateur. Qu'est-ce que cette église me propose ? Est-ce qu'elle me plaît ? Est-ce qu'elle est plutôt sympa ? Est-ce qu'il y a des activités intéressantes ? Des programmes attrayants ? C'est vrai, malheureusement, on a un peu adopté cette manière de penser. Aujourd'hui, on pense que l'Église doit divertir les gens, faire qu'ils se sentent bien pour qu'ils restent, leur proposer toutes sortes de choses pour capter leur attention. Mais on oublie que le but de l'Église, c'est d'édifier, d'équiper des croyants pour qu'il puisse vivre dans le monde et lui apporter, lui démontrer l'Évangile de Christ. alors que vous soyez en train de chercher une église ou que vous déménagiez dans le futur, c'est tellement important que vous trouviez une église où Christ et la parole soient honorés par-dessus tout. Et quand vous avez trouvé cette communauté, n'hésitez pas à vous y engager. Pour certaines ou certains d'entre vous, vous êtes peut-être plutôt en train de vous demander si vous ne devriez pas quitter l'assemblée où vous êtes pour aller ailleurs et vous essayez de faire le point. Posez-vous la question, est-ce que nous sommes à notre place ici? Et là aussi, c'est essentiel de se rappeler ce qui est réellement important pour pouvoir garder une bonne approche sur cette question. Et pour trouver des réponses, on va se pencher sur ce qu'était l'Église primitive dans le livre des Actes, chapitre 2, à partir du verset 41. J'aimerais mettre en évidence quelques caractéristiques essentielles de cette première Église. Là, c'est juste quelques versets, mais si vous lisez tout le Nouveau Testament, vous allez en trouver d'autres, bien sûr. Là, on voit une Église qui n'avait pas encore eu le temps de dévier. C'est la toute première Église. On voit que les gens avançaient dans la vie en étant conduits par l'Esprit. Qu'ils avaient confiance en Jésus, qu'ils aimaient Dieu et qu'ils prenaient soin les uns des autres. Ça nous donne un peu une image de ce que pourrait être une église idéale. Donc, Actes chapitre 2, verset 41, « Ceux qui acceptèrent la parole de Pierre furent baptisés. » Là, ça se passe juste après la Pentecôte, quand Dieu a envoyé son Esprit Saint sur l'église. « En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » Donc, l'Évangile est proclamé, les gens se convertissent, ils croient et ils se font baptiser. Pas pour être sauvés, mais pour témoigner extérieurement de cette transformation qui s'est passée dans leur cœur. Et là, je voudrais faire un aparté. Si vous êtes enfant de Dieu, c'est un réel acte d'obéissance à Christ que de vous faire baptiser suite à votre conversion. C'est un signe extérieur qui vous unit au corps de Christ. Et c'est comme ça que les nouveaux croyants étaient publiquement identifiés comme appartenant à Christ, comme faisant partie de sa famille. Ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est le baptême de ces nouveaux croyants qui marquait leur entrée dans l'Église. Votre union en Christ, elle vous place dans l'Église, elle vous place au sein du corps de Christ. Et pas seulement dans l'Église universelle, l'Église avec un grand E, mais aussi dans l'Église locale, l'Église avec un E minuscule. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, ce n'est pas une option. Il n'y a pas de doute, dans le Nouveau Testament, on ne trouve pas de croyants isolés qui ne veulent pas faire partie d'une assemblée. Dans ce passage du livre des Actes, on lit qu'il y a eu 3000 nouveaux croyants en un jour. Vous imaginez si ça devait arriver dans nos églises, si on avait tout à coup 3000 nouveaux convertis en une seule journée? Bien sûr, on rendrait gloire à Dieu, mais est-ce qu'on arriverait à suivre? Vous vous imaginez dans cette nurserie avec ces nouveaux bébés croyants, comment on ferait? Eh bien, on devrait faire comme les premiers chrétiens ont fait. Parce qu'apparemment, ça a marché. Verset 42, ces nouveaux croyants se sont fait baptiser et, écoutez, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ces gens ont persévéré. Ils ne se sont pas contentés de s'avancer à la fin du sermon pour venir raconter un témoignage, pour donner leur nom, s'inscrire aux activités et disparaître ensuite. Le signe, la preuve qu'ils avaient une foi sincère, c'est précisément qu'ils ont continué à faire partie du corps de Christ par leur participation active dans l'assemblée. Ils n'ont pas abandonné. On voit parfois des églises qui organisent de grands événements où il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui font une déclaration de foi. Et finalement, un an après, elles ne sont plus là. On ne les retrouve pas dans nos églises. Et on se pose la question, est-ce que vraiment ils se sont donnés à Christ? On l'a bien compris, hein, ce n'est pas d'aller à l'église qui fait de nous des chrétiens. Mais continuer à suivre Christ en faisant véritablement partie de son corps. C'est une des évidences que nous sommes enfants de Dieu. Nous persévérons. Et nous persévérons dans quoi? Dans la doctrine des apôtres. Ça, c'est le ministère de la parole de Dieu. L'enseignement, c'est le premier qui est listé là. Et puis dans la communion fraternelle, donc dans la relation avec les frères et sœurs, mais aussi dans le partage du pain, c'est-à-dire la Sainte Cène, le repas du Seigneur, et dans la prière. Quand il est question de rejoindre une église, il faut qu'on s'assure que ces quatre aspects sont présents. Attention, hein, on l'a vu, on n'atteindra pas la perfection, il n'y aura pas d'église parfaite ou de communion parfaite ici-bas, mais nous devons retrouver ces quatre éléments dans l'église. La parole, la communion entre frères et sœurs, la Sainte Cène et la prière. Et qu'est-ce qui en résulte? On le voit au verset 43, c'est la suite. « La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. » Qu'est-ce qu'on voit là? Des croyants qui grandissent dans la foi, en ayant conscience de la présence de Dieu dans la communauté, dans ce corps de croyants. Il y avait là cette crainte, ce respect de Dieu, un respect qui se manifestait non seulement dans l'Église, mais qui rayonnait au-delà de l'Église. Tout le monde savait. Tout le monde voyait que Dieu était là. Ça, c'est le signe d'une Église en bonne santé. On voit la puissance de Dieu à l'œuvre parmi les gens. Aujourd'hui, on n'a peut-être plus d'apôtres comme c'était à l'époque. On n'a plus forcément des signes et des merveilles comme c'était le cas dans l'Église primitive où l'Évangile devait s'affirmer et fonder ses racines. Mais on devrait toujours voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos Églises. Cette puissance de l'Évangile qui change les cœurs et qui transforme des vies. Je continue au verset 44. « Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. » C'était une famille. C'était un corps, une communauté de foi qui partageait tout ce qu'elle avait. Ces gens, ils n'étaient pas individualistes, ni égoïstes. Ils étaient plus intéressés par le royaume et la famille de Dieu que par leurs propres affaires. Ils avaient à cœur de partager tout ce qu'ils avaient. Verset 45, « Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. » Là, on ne parle pas de socialisme, de communisme. Ces croyants donnaient volontairement ce qu'ils avaient en abondance pour répondre aux besoins des autres. Ils étaient sensibles à leurs besoins et ils étaient généreux pour que personne ne manque de rien. Verset 46, « Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. » On retrouve là le même mot qu'au verset 42, « ils persévéraient ». Ils persévéraient au temple chaque jour. Alors là, je vous entends me dire, « Oula, déjà 15 jours par semaine, je trouve que c'est pas mal. Maintenant, il faudrait y aller tous les jours si on voulait vivre comme les premiers chrétiens. » C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que nous avons besoin de fonctionner comme un corps en Christ au quotidien. Vous ne pouvez pas être la famille de Dieu juste une fois par semaine et espérez être ce que Dieu attend de vous. Vous devez y veiller chaque jour, d'un même accord et d'un même cœur. Je poursuis versets 46 et 47. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Voilà les caractéristiques de l'Église. La communion fraternelle, la communauté, la prière, l'unité, la joie, l'adoration et une bonne réputation dans le monde. Est-ce que ce ne serait pas génial si c'était le cas pour nos églises aujourd'hui? Alors le fait que ce ne soit pas forcément le cas ne doit pas être pour nous un prétexte pour laisser tomber et quitter l'église, comme je le disais tout à l'heure. Nous devons plutôt nous mettre à l'œuvre, servir, prier et supplier Dieu de réveiller son église et de nous ramener à la vie, à une existence qui fait envie. Et je vais terminer en soulignant la deuxième partie du verset 47. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous avez noté, il y avait sans arrêt de nouveaux convertis qui arrivaient dans l'Église. C'est une œuvre souveraine. C'est Dieu qui ajoutait quotidiennement de nouvelles personnes, alors que l'Église vivait la réalité de cette relation avec Dieu et les uns avec les autres. Donc, si vous faites partie d'une église actuellement, et j'espère que c'est le cas, prenez un moment pour remercier Dieu. Remerciez-le pour cette communauté dans laquelle il vous a placé, malgré ses imperfections, ses fautes et ses défauts. Demandez-lui de rendre cette église telle qu'il veut qu'elle soit. Dieu est en train de préparer l'église pour qu'elle soit cette magnifique épouse qui vient à la rencontre de son époux, le Seigneur. Et si vous n'êtes pas encore membre d'une église locale, plongez-vous dans le deuxième chapitre du livre des Actes pour identifier les caractéristiques qu'on devrait trouver dans une communauté et puis demandez à Dieu de vous en montrer une, pas loin de chez vous. Et puis quand vous l'aurez trouvée, je vous encourage à y aller. Impliquez-vous, n'hésitez pas à retrousser vos manches et regardez Dieu vous faire grandir, vous et l'Église, dans votre relation avec lui.
On vient d'entendre de précieux conseils pour trouver une église. Êtes-vous prête, êtes-vous prêt à vous retrousser les manches et à vous impliquer dans votre église? Eh bien, je l'espère et je vous invite à nous rejoindre pour notre prochain message où on parlera de la manière dont on peut mieux s'impliquer dans notre église. Et je vous dis à tout bientôt!
Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version Second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman.
Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.